Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé par la résolution 2098 de doter la MONUSCO d'une brigade d'intervention. Celle-ci aura pour mandat de neutraliser les groupes armés en République démocratique du Congo. L'entrée mouvementée des miliciens Bakata Katanga à Lubumbashi samedi dernier, une forte délégation composée de 7 ministres et des députés nationaux en provenance de Kinshasa séjourne depuis mercredi dernier dans cette ville pour enquêter sur cet événement. Tels sont les thèmes que vous propose Tribune de la Presse de ce soir. Dans cette émission, nous aurons Jean-Marie Kamboy, il est directeur des publications du journal L'Avenir, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Jean-Marie Kamboy.
Bonsoir.
Joël Kadé Danga, il est éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadé Danga.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir auditeur de la radio Kapi.
Et Clément Mangoubou, éditeur du journal Mwangaza, un hebdomadaire qui paraît à Kisangani en province orientale. Bonsoir Clément Mangoubou.
Bonsoir confrère.
Une brigade spéciale d'intervention contre les groupes armés en République démocratique du Congo, une commission d'enquête à Lubumbashi pour faire la lumière sur l'entrée mouvementée des Bakata Katanga dans cette ville. Écoutons cette revue de presse que nous propose Samuel Kachak.
Bonsoir. Le Potentiel rapporte ce matin que le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé hier jeudi la résolution portant déploiement d'une brigade spéciale d'intervention dans la partie est de la RDC. La Chine et la Russie, deux membres du Conseil qui s'opposaient à cette résolution, ont pu finalement trouver gain de cause dans le dernier projet de résolution présenté par la France, indique le journal. L'Avenir estime que cette résolution est une première mondiale. La brigade que vient de créer le Conseil de sécurité sera formé des 3 bataillons d'infanterie assistés d'une compagnie d'artillerie et d'une compagnie de reconnaissance et des forces spéciales, rapporte l'Avenir. Le journal précise que sa mission est de combattre et neutraliser les groupes armés dans l'est de la RDC. La Prospérité, pour sa part, salue le feu vert donné par le Conseil de sécurité pour créer cette brigade. Elle voit dans cette résolution une victoire du secrétaire général de l'ONU en vue d'en finir une fois pour toutes avec l'insécurité dans cette partie de la RDC. Sur un autre registre, l'attaque armée de la ville de Lubumbashi par un groupe Mai Mai a aussi intéressé les journaux de Kinshasa cette semaine. Sur cette question, le Potentiel mentionne tension récurrente à Lubumbashi, mystère. Le quotidien s'interroge si l'entrée des miliciens Bakata Katanga à Lubumbashi est une coïncidence ou un choix délibéré. Le journal indique dans ses colonnes que le gouvernement a décidé de transférer ces Bakata Katanga à Kinshasa pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Mais jusque-là, poursuit le Potentiel, personne ne connaît la main invisible qui agit derrière cette agitation permanente à Lubumbashi. La Prospérité est restée sur la même page. Dans son éditorial, il exige un châtiment exemplaire contre ces miliciens Bakata Katanga. Sur ce dossier Bakata Katanga, le journal Forum des As titre en sa manchette « Le gouvernement menace ». Le quotidien croit savoir que les Congolais veulent cette fois-ci que l'enquête puisse aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'établissement assorti des sanctions. Pour conclure, la référence plus précise que c'est Mai Mai Bakata Katanga ne jure que par l'indépendance de la province du Katanga.
Merci Samuel Kachak. Jean-Marie Kamboy, je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal L'Avenir, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Vous venez de suivre cette revue de presse. Et l'actualité, c'est aussi cet ultimatum lancé par les Nations Unies à l'endroit du gouvernement congolais pour qu'il sanctionne les soldats des deux bataillons des FRDC, accusés d'avoir commis au moins 126 viols en novembre dernier au sud Kivu à Minova.
Oui, mais Monsieur Guy Maté, l'ultimatum du Conseil de sécurité d'hier, pratiquement, a créé une sorte de tension dans les chefs du gouvernement et de tous ceux qui les soutiennent. Dans la mesure où le gouvernement a à fournir des efforts. Il est vrai qu'au niveau du Conseil de sécurité et de l'ONU, il y a un problème, il y a une frustration. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on pense qu'on a beaucoup investi en RDC, on a beaucoup appuyé l'armée ainsi que le gouvernement, mais on se rend compte que les résultats ne suivent pas. Donc, les réactions est en quelque sorte l'expression de leur frustration. Ça, c'est d'un côté. Maintenant, de l'autre côté, c'est la façon dont l'ONU procède. L'ONU donne un ultimatum à un gouvernement souverain, à un gouvernement indépendant, à un gouvernement qui a des problèmes, à un gouvernement qui venait, il n'y a pas longtemps, délivrer Bosco Ntaganda, là, et même s'il a traversé pour aller au Rwanda, à un gouvernement qui a des problèmes à régler à l'Est. Nous estimons qu'il est vrai que l'ONU devrait continuer à faire des pressions, mais intimer un ordre au gouvernement congolais, c'est un peu disproportionné et c'est inamical.
Joël Kadidanga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, un billet hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Comment vous pouvez expliquer l'attitude des Nations Unies face à ces phénomènes de viol en RDC, les Nations Unies qui donnent carrément un ultimatum au gouvernement congolais? Est-ce parce que ces phénomènes, les viols en RDC, c'est un phénomène qui perdure en dépit du fait qu'on les dénonce, en dépit du fait qu'on prend des engagements pour les combattre, mais ils perdurent? Il prend de l'ampleur et la situation ne fait qu'empirer. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que les Nations Unies, finalement, donnent cet ultimatum au gouvernement congolais?
Tout à fait, Guy Maté. L'ultimatum des Nations Unies démontre, noir sur blanc, que le régime de Kinshasa a consacré l'impunité. Et lorsqu'il y a consécration de l'impunité, qu'est-ce qu'on peut faire avec un gouvernement comme ça? Ce n'est pas une affaire d'une amicabilité. Non, ce n'est pas une affaire d'une amitié. C'est une affaire de constater que chez nous, l'impunité est consacrée, que les gens peuvent commettre des viols et ces gens-là sont bien identifiés et on les laisse faire, on les laisse vivre. On a parlé, mon confrère venait tantôt de parler de Ntaganda. Ntaganda a traversé de l'autre côté de Kigali. Kigali lui a ouvert la porte pour aller se livrer. Mais chez nous, on a consacré l'impunité. On vous a donné les raisons que c'est pour la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, Kigali, c'est la vraie levée. Kigali dirait que non, écoutez, monsieur, de l'autre côté, c'est du désordre. De l'autre côté, c'est la cacophonie. Mais chez nous, on ne lui a pas permis de rester longtemps sur notre sol parce qu'il a été recherché par la Cour pénale internationale. Nous lui avons facilité la tâche pour que les Nations Unies, les États-Unis d'Amérique et la RDC puissent le livrer. Et ça a été fait. Mais chez nous, nous l'avons gardé, nous l'avons préservé. C'est que l'ultimatum des Nations Unies, je le soutiens, mon confrère l'a dit tantôt, il a dit que les Nations Unies ont beaucoup investi, ils ont soutenu l'armée, ils ont soutenu le gouvernement de Kinshasa, mais on sent dans le chef du gouvernement de Kinshasa une sorte de la consécration, de la sacralisation de l'impunité en ce qui concerne les viols des femmes.
Merci. Clément Mangoubou, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Mwangaza, c'est un hebdomadaire qui paraît Kisangani, la province orientale. Comment vous pouvez expliquer l'ampleur qui prend ces phénomènes de viol en République démocratique du Congo, un phénomène qui sévit aussi dans la province orientale où vous vous trouvez actuellement?
Oui, le phénomène viol est devenu pratiquement, je dirais, une pratique normale dans la société congolaise, dans la mesure où les gens restent impunis, et il y a même des arrangements qui se font avec la bénédiction de la justice, ce qui devient un problème qui va continuer à se poser dans la société et qui pourrait dégénérer un jour. Moi, je pense que l'État, la justice, doit sévir avec la dernière énergie pour sanctionner les auteurs de viols. Et ce qui se passe au Nord Kivu est déjà grave. Parce que ces gens-là, on croit les laisser comme ça, et les Nations Unies pensent également qu'on veut dans le panier de l'impunité. C'est pour cela que les Nations Unies ont estimé qu'il fallait secouer le gouvernement congolais pour que les choses avancent. Sinon, l'impunité qui tend à se consacrer devient dangereuse pour la nation congolaise. Parce que une armée, c'est la discipline. Une armée, c'est une vision, c'est pour protéger non seulement l'intégrité du territoire, mais les hommes aussi qui y vivent. Mais lorsque les éléments de l'armée se livrent à des choses comme ça, ça devient dangereux. Surtout. Merci. Que les Nations Unies elles-mêmes aussi s'investissent ces dernières années pour former les éléments de FARDC et de la police nationale. Il y a des sessions de formation pour les droits de l'homme, pour le renforcement des capacités, mais apparemment les choses ne semblent pas changer.
Merci.
Moi je crois que quelque part les Nations Unies ont eu raison de secouer le gouvernement congolais.
Merci. Notre premier thème de ce soir, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé par la résolution 2098 de doter la MONUSCO d'une brigade d'intervention. Celle-ci aura pour mandat de neutraliser les groupes armés en République démocratique du Congo. Cette résolution proposée par la France a été adoptée hier à l'unanimité des 15 membres par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les détails sur la mission de cette brigade dans cette correspondance de notre confrère Jérôme Longuet de la radio des Nations Unies à New York.
Cette brigade comprendra 3 bataillons d'infanterie, une compagnie d'artillerie, une force spéciale et une compagnie de reconnaissance qui aura pour responsabilité de neutraliser les groupes armés, précise la résolution 2098 adoptée à l'unanimité. La création d'une brigade d'intervention répond à une recommandation du secrétaire général. Le 24 février dernier, 11 pays de la région avaient signé à Addis Abeba l'accord cadre qui les engage à protéger la souveraineté territoriale de la RDC et à préserver la paix et la stabilité dans ce pays. Le Conseil de sécurité a exigé aujourd'hui des États signataires qu'ils honorent leurs engagements de bonne foi. Récemment nommé par le secrétaire général, l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Marie Robinson, est chargé par le Conseil de diriger, coordonner et évaluer l'application des engagements pris au titre de l'accord cadre et elle est invitée à conduire un processus politique global ouvert à toutes les parties prenantes en vue de remédier aux causes profondes du conflit dans la région. À New York, Jérôme Longuet, la radio des Nations Unies.
Une brigade d'intervention des Nations Unies au sein de la MONUSCO, cela est une grande première. Celle-ci aura un mandat robuste pour combattre les groupes armés. C'est ce qu'explique l'ambassadeur Gérard Haraud, représentant permanent de la France à l'ONU.
La résolution propose des mesures nouvelles pour réduire la menace que représentent les groupes armés sur les populations civiles par le déploiement d'une brigade d'intervention dotée d'un mandat offensif. Il ne faut pas opposer l'imposition de la paix et le maintien de la paix. Déjà, si vous regardez le mandat de la MONUSCO, vous voyez que ce mandat était un mandat qui allait très loin, puisque par exemple, la MONUSCO pouvait soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans les combats. Donc c'était quelque chose qui allait bien au-delà du maintien de la paix le plus traditionnel. Avoir une brigade intervention qui d'elle-même peut engager le combat contre les groupes armés, en cela, c'est en effet une innovation. Mais je crois que ce qui va compter au-delà du texte, c'est ce qui va se passer sur le terrain, et nous verrons si cette innovation sera un précédent ou simplement nous ne la renouvellerons pas.
Autre réaction des Nations Unies, c'est celle du ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, se félicite de la mise sur pied de cette brigade qu'il espère voir venir à bout de forces négatives. On écoute le ministre congolais.
Je voudrais, au nom de la République démocratique du Congo, dire notre satisfaction pour l'adoption ce jour de la résolution 2098 qui renforce le mandat de la MONUSCO et crée au sein de cette dernière une brigade d'intervention. C'est depuis pratiquement le début de la crise que les chefs d'État de la région des Grands Lacs avaient estimé que pour créer une nouvelle donne dans la région des Grands Lacs, il était important de mettre sur pied une force internationale neutre chargée de neutraliser les forces négatives. Ce concept a évolué pour devenir ce qu'aujourd'hui nous appelons une brigade d'intervention. C'est une première dans les annales du maintien de la paix par les Nations Unies, cette brigade d'intervention. Nous avons la conviction qu'elle aidera à faire la différence et que bientôt les forces négatives ne seront plus qu'un mauvais souvenir.
Jean-Marie Kamboa, une brigade d'intervention, comment analysez-vous cette décision du Conseil de sécurité des Nations Unies?
Monsieur Guy Maté, la décision du Conseil de sécurité d'hier restera gravée dans les annales des Nations Unies, dans la mesure où on venait là démarquer un point dans la lutte contre les forces négatives à l'est de la RDC. En effet, à travers cette résolution, on donne un plein mandat à la brigade, aux soldats du Malawi, du Mozambique et sud-africains qui seront chez nous, de pouvoir traquer toutes les forces négatives dans notre pays. Imaginez-vous, monsieur Guimaté, hier là, j'apprenais que pour seulement la province du Nord-Kivu, nous avons au moins 22 groupes Maïmaï, sans oublier ceux qui sont au sud Kivu.
Il y a une cinquantaine de factions Maïmaï répertoriées au nord Kivu.
Ce qui est vraiment inadmissible dans un pays qui a vocation à se développer, dans un pays qui a vocation à servir de modèle pour d'autres pays africains. Raison pour laquelle nous ne pouvons que saluer cette résolution qui intervient à point nommé. Dans la mesure où nous étions dans une aventure à Kampala, malheureusement, qui ne pourra pas produire des résultats, mais heureusement, avec cette force, avec cette brigade, nous mettrons un terme à tous ces aventuriers et le gouvernement pourra maintenant récupérer ou étendre son autorité sur tous les territoires nationaux. Mais entre-temps, nous voulons demander au gouvernement, à travers nos forces armées, de pouvoir nous évacuer de tous les infiltrés, de nous évacuer de tous ceux qui peuvent encore perturber la quiétude dans notre pays.
Joël Kadedanga, cette intervention tombe à point nommé, comme le dit Jean-Marie Kamboa. Il y a même le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement congolais, qui qualifie cette résolution d'avancée significative vers la paix en République démocratique du Congo.
Je suis très content, je rejoins le confrère lorsqu'il dit que c'est vraiment tombé à point nommé et nous saluons vraiment cette décision. Mais là où ça me fait très mal, Guy Maté, et là où ça fait très mal, c'est la phrase-là que vous avez citée du Premier ministre du gouvernement de la RDC et un gouvernement responsable établi sur un État souverain lorsqu'il dit que c'est une avancée significative dans la recherche de la paix et qui se frotte les mains. Alors que ça devait en principe être une honte dans la mesure où le gouvernement de la RDC est incapable de mettre en place une brigade d'intervention rapide pour faire face à tous les groupuscules de guerre.
Joël Kadé, il est de notoriété publique que les FRDC sont en cours de réformes.
Non, en cours de réformes, oui. Mais ça devait faire partie des priorités, comme le chef de l'État l'a dit dans son discours sur la nation, que la priorité des priorités devait être la défense nationale. Et celui qui devait exécuter cette volonté du chef de l'État, c'est le gouvernement en place, qui ne pouvait pas se recroqueviller devant, n'est-ce pas, cette brigade des Nations Unies. Parce que cette déclaration que vous avez énoncée tantôt d'une avancée significative, donc ça démontre que la personne croit que la RDC est un protectorat des Nations Unies et qui doivent intervenir, qui doivent subvenir aux besoins, n'est-ce pas, de la RDC à tout moment. Et c'est ce qui explique même toute son action. Et toute son action est tournée vers le satisfaction des institutions de Bretton Woods pendant que la population congolaise souffre. Moi, je crois. Ce qui devait être fait et qui devait être une avancée significative, comme le Premier ministre Matata Ponyo l'a dit, ça devait être qu'aujourd'hui, les gouvernements congolais devaient aller dans le sens où mon confrère a dit, exfiltrer la RDC de tous ceux qui donnent les informations, parce que nous avons une armée forte. Ça, il faut le reconnaître. Nous avons des gens qui ont été formés en Israël, en Égypte, des gens qui ont été formés en Belgique, des gens qui ont été formés avec le budget de l'État aux États-Unis d'Amérique, qui sont là, qui peuvent être pris pour faire la guerre. Mais on a laissé l'armée congolaise avec beaucoup d'infiltrés qui livrent les informations ailleurs. La paix en République démocratique du Congo devrait être l'émanation du gouvernement congolais par les actions menées seules au niveau du gouvernement congolais. Pas une affaire des Nations Unies. Là, ça démontre comme s'il s'agit la RDC est un protectorat des Nations Unies.
Jean-Marie, vous voulez parler, oui, Jean-Marie?
Oui, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Quel est le problème? Il est vrai que dans notre pays, un état des lieux a été fait. Quel est cet état des lieux? La ville de Goma tombée aux mains des rebelles du M23. Qu'est-ce qu'on avait constaté? On avait avancé des raisons que les rebelles du M23 étaient appuyés par les Rwandais qui avaient des matériels sophistiqués. Et même ces matériels-là ne pouvaient pas se retrouver dans le camp des non-FRDC. Ça, c'est une première raison qui a justifié la création de la brigade d'intervention. La deuxième raison, ce sont nos faiblesses. Il faut reconnaître des faiblesses pour pouvoir avancer dans la vie. Lorsque vous ne reconnaissez pas vos limites, il vous serait vraiment difficile d'avancer. C'est par rapport à nos limites en ce qui concerne les FRDC. Comme vous venez de le dire, nos FRDC sont infiltrés. Nos FRDC ont des problèmes. Il y a des problèmes de la réforme et consorts. Donc, il était tout à fait justifié qu'on ait d'abord une brigade d'intervention qui pourra nous aider à nous évacuer de tous les infiltrés, de tous les maïmaïs et consorts. C'est après
que nous aurons l'État.
Merci.
Comme je l'ai dit, entre-temps, le gouvernement maintenant doit se battre pour instaurer la stabilité, pour continuer avec la réforme de l'armée.
Il y a bien même cette réforme-là.
Voilà.
Merci Clément Bangbou. Désormais, nous disposons d'une force d'imposition de la paix, une force combattante, une force offensive.
Oui, je comprends que le Congo a des difficultés sérieuses pour s'organiser sur le plan militaire, parce que une brigade comme ça aurait dû venir appuyer les FARDC dans les combats qu'elle mène contre tous les agresseurs du Congo, toutes les forces négatives, mais que cette brigade prenne le devant et joue le premier rôle, c'est un peu compliqué pour nous.
Oui. La résolution dit que la force va opérer avec ou sans les FARDC.
Oui, mais c'est vrai que nos amis auront tendance à ignorer pratiquement les FARDC et à jouer pratiquement les premiers rôles. Et quand dans un pays ami, dans un pays frère, on vient en intervention, on vient en conquérant pratiquement. Parce que quand ils auront gagné cette guerre-là,
n'est-ce pas, là,
que diront les FARDC, que dira le gouvernement du Congo? C'est que c'est eux qui ont gagné, c'est eux qui ont éradiqué les forces négatives, c'est eux qui ont bouté hors du pays les agresseurs, et ils auront un mot à dire sur les Congo. Moi, je pense que je reste un peu sceptique, mais il faut voir cette force à l'œuvre et voir comment elle va opérer. Étant donné que, comme l'ont dit là-bas, les confrères, le FARDC combat contre plusieurs fronts. C'est l'unique armée au monde qui combat contre différentes forces, contre 1000 fronts. Parce que vous avez des fronts, non seulement au nord, au sud Kivu, mais au Katanga, dans la province orientale, à l'Équateur, dans le Bas-Congo. Donc, vous vous rendez compte, c'est l'unique armée au monde qui est dans plusieurs fronts à la fois. Alors, que cette force vienne là, elle ne va pas s'arrêter seulement au nord Kivu, mais il faut qu'elle ait aussi le temps d'aller dans d'autres provinces. Et je crois que c'est une tâche compliquée, et vous le savez vous-même, les problèmes de la sécurité à l'Est, c'est un problème complexe qui implique beaucoup de pays, qui implique beaucoup de dirigeants, qui implique beaucoup d'organisations.
Oui, Joël Kadedanga, cette guerre a beaucoup duré et a fait beaucoup de victimes. Ça fait maintenant 20 ans, c'est depuis 1993, le 20 mars 1993, que la guerre a commencé au nord Kivu. Et on parle aujourd'hui de plus de 6 millions de victimes. Vous pensez qu'il n'était pas opportun de mettre en place des mécanismes qui pouvaient aider? Parce qu'on s'est rendu compte que la RDC a beaucoup de problèmes, comme l'a dit Jean-Marie Kamboa. Nous avons nos faiblesses qui ne nous ont pas permis, n'est-ce pas, de faire face à ces défis. Alors, est-ce qu'on ne pouvait pas réfléchir pour voir comment mettre en place ces mécanismes, pouvoir permettre, n'est-ce pas, à la RDC de mettre hors d'état de nuire toutes ces forces négatives, n'est-ce pas, qui sont à la base de toutes ces différentes guerres?
Guimate, vous le dites bien, et je suis totalement d'accord avec vous, lorsque vous dites, avec 6 millions de morts, avec la durée de cette guerre qui va bientôt totaliser 20 ans, il y avait lieu qu'un mécanisme soit trouvé. Et que cela vienne de l'initiative de la communauté internationale, je l'applaudis. Mais là où il faudrait que les choses soient être bien vues, c'est lorsqu'on constate que dans le chef du gouvernement congolais, cette volonté n'est pas manifeste de mettre fin à cette guerre. C'est comme si il y a certains acteurs au niveau national qui se retrouvent dans la prolongation de cette guerre. Et on ne voudrait pas qu'elle termine. Même la multiplicité des groupes armés, n'est-ce pas une stratégie menée et par les agresseurs et par l'agressé pour que la guerre continue? Le confrère a dit que nous avons plusieurs fronts, c'est vrai, et partout. Si c'est cela, une stratégie du gouvernement, ça doit cesser. Parce que les gens qui doivent sentir que la population congolaise a été totalement décimée, c'est dans le chef du gouvernement congolais, et l'initiative devrait être congolaise. Je vous dis, Guy Maté, dans le monde entier, il n'y a pas une guerre qui a été, qui est terminée, n'est-ce pas, par la seule volonté des Nations Unies. Oui, on peut reconnaître l'intervention des Nations Unies au Katanga lorsqu'il y a eu la sécession. C'est lorsque le secrétaire général des Nations Unies est mort, Dagmar Sekyolt, qu'ils ont pris la résolution, en effet, en tout cas d'interrompre cette guerre. Et partout ailleurs, vous sentirez que partout les Nations Unies sont intervenues, il y a eu, même aujourd'hui, au Mali, la France va bientôt retirer ses troupes. C'est là où nous devrions inviter notre gouvernement à une prise en charge personnelle et l'initiative de la fin de la guerre devrait être l'émanation du gouvernement congolais. Si on veut mettre fin à tous les soubresauts qui pullulent partout dans notre pays,
merci.
Le gouvernement devrait réfléchir sur la mise en place d'une armée dissuasive, d'une armée républicaine, d'une armée responsable qui voudrait commettre fin à ça.
En attendant, j'ai
appuyé l'initiative des Nations Unies. Mais nous ne devrions pas nous réjouir. Nous ne devrions pas nous réjouir. Nous limiter à cette réjouissance, parce que vous voulez que nous nous réjouissions, nous ne devrions pas nous limiter uniquement aux initiatives des Nations Unies. Et vous avez vu les limites des Nations Unies partout au monde. Et là où je voudrais terminer, Guy Maté, c'est lorsque toutes les nouvelles théories des relations internationales sont appliquées sur la République démocratique du Congo, et la République démocratique du Congo devient comme une cobaye où toutes les nouvelles théories, ça c'est une nouvelle doctrine qui va s'appliquer pour la première fois, la RDC est une cobaye. Et lorsqu'on se sert de notre pays comme une cobaye, je crois que les analystes des relations internationales devraient se tenir debout pour peut-être dire non et réfléchir sur un nouveau mécanisme, comme vous l'avez dit, de la fin de cette guerre qui a longtemps duré. Nous avons une armée qui a une histoire. Nous avons une armée qui a fait la guerre. Nous avons une armée qui a été soutenue pour faire des grandes études aux États-Unis, en Israël.
Qui a été désintégrée.
Cette armée désintégrée a des éléments qui ont été financés par l'État congolais et on peut les récupérer. Ils vont faire la guerre et nous allons gagner la guerre.
Merci Jean-Marie Cambois. On parle d'environ 2700 hommes qui pourraient constituer cette force. Et vous pensez que c'est suffisant quand on connaît l'immensité de la zone où ces gens vont opérer? Le Kivu, c'est très immense. 2700 éléments face à une cinquantaine de factions au Mai Mai, face au FDLR, face au M23, les ADF Nalu, le FNL.
Mon cher, il est vrai que les chiffres tels qu'il a été donné n'est pas tellement important. Dans la mesure où le Nord et le Sud Kivu sont des plus grands territoires que nous avons dans notre République, réunis, c'est des province représenterait plusieurs pays européens. Mais le problème n'est pas du tout par rapport au nombre des militaires qui vont arriver, mais le problème c'est d'abord la volonté qu'il faut reconnaître. Il y a quand même cette volonté-là d'aller jusqu'au bout, la volonté de mettre un terme. Dans quelle mesure? Moi je me rends compte que lorsqu'on aura à déployer les 2700 militaires de la brigade, je ne pense pas qu'on va les éparpiller dans toutes les deux provinces du coup. Même si la résolution a été adoptée, je pense qu'il y aura une stratégie, il y aura une ligne de conduite qui pourra prévoir, qui pourra organiser la façon dont les troupes seront déployées sur terrain.
Jean-Marie Kamboa, parmi les forces qui sont concernées, il y a le M23. À votre avis, dans les faits, comment les choses vont se passer quand on sait que, on se rappelle que le M23 est en pourparlers avec le gouvernement congolais?
Mon cher, depuis la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba le 24 février, je ne me rappelle pas qu'il y ait une réunion organisée à Kampala. Je pense que c'est à partir de cette date-là que la fin, pratiquement, pour parler, devait être annoncé.
Qui n'a jamais été fait.
Oui, ça n'a jamais été fait. Maintenant, le problème est que, d'un côté, le gouvernement négocie avec la M23. De l'autre côté, le gouvernement s'est battu sur le plan international afin de trouver solution à ces problèmes. Maintenant, le gouvernement se rend compte que l'une de ses options, c'est celle-là qui a réussi la voie de la communauté internationale et qui va consister à la traque des membres du M23. Ce qui veut dire que les pourparlers de Kampala n'auront aucune raison d'aboutir à un accord quelconque.
Merci. Clément Mangoubou, comment vous analysez ces scénarios? Le M23 se sent acculé par cette force d'intervention. Quel réflexe pourrait-il développer? N'aurait-il pas tendance à se replier sur le territoire des pays limitrophes comme l'Ouganda ou le Rwanda?
Oui, les M23 certainement cherchera à changer de stratégie. Ce ne sera plus peut-être la guerre ouverte comme ça, mais elle va peut-être rentrer dans une guerre d'usure avec les forces qui vont venir, parce qu'il y aura aussi un problème de terrain pour les forces qui viendront. Ils ne connaissent pas nécessairement les terrains, mais les M23 connaît un peu les terrains, et je crois que ce sera une guerre d'usure, mais Je pense que le gouvernement aurait tort de ne pas aboutir les négociations avec le M23. Dans la mesure où c'est des choses qui ont été conclues et qui ont été revisitées ensemble. Donc, il ne peut pas suspendre les choses comme ça. Il faut arriver au bout. Moi, je crois que le gouvernement a intérêt à terminer les pourparlers, à conclure les pourparlers avec le M23, quelle que soit l'issue, pour ne pas donner l'occasion aux gens de revenir sous une autre forme et sous d'autres aspects.
Joël Kadedanga, certains analystes, tout en reconnaissant la nécessité d'une telle force au Congo, affirment que tout est fonction de ceux-là qui l'ont envoyé, qui ont envoyé cette force dans ces pays, c'est-à-dire toutes les grandes puissances qui sont membres des Conseils de sécurité des Nations Unies. Si ces pays-là sont déterminés à ramener la paix au Congo, ils vont doter cette force de tous les moyens possibles pour lui permettre, n'est-ce pas, de pacifier l'est du pays.
Vous n'avez pas tort, Guy Maté, ces analystes ont totalement raison dans la mesure où il faut reconnaître qu'en relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et s'ils trouvent l'intérêt dans la fin de la guerre, en effet, ça va terminer. Vous vous souviendrez de l'opération Artemis menée par la France en Ituri, ça avait mis fin à la guerre. Et s'ils sont vraiment déterminés, la guerre va effectivement terminer. Mais s'ils ne trouvent pas l'intérêt à ce que la guerre termine, je vous dis qu'en relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts. Et c'est là où nous devrions interpeller l'intervention du gouvernement congolais qui devrait faire de la défense nationale la priorité des priorités.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir, l'entrée mouvementée des miliciens Bakata Katanga à Lubumbashi samedi dernier. Une forte délégation composée de 7 ministres et des députés nationaux en provenance de Kinshasa séjourne depuis mercredi dernier dans cette ville pour enquêter sur cet événement. Jean Gandou pour les détails.
La délégation est composée de 7 ministres, tous originaires du Katanga. À leur tête, le vice-premier ministre et ministre de la Défense et les députés nationaux membres du caucus des députés katangais. Depuis ce matin, le bureau de l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial sont en réunion avec les membres de la délégation. La rencontre est présidée par Charles Mwando Simba, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Les membres de la délégation veulent s'enquérir de la situation qui a prévalu le samedi dernier à Lubumbashi avec l'entrée des combattants Bakata Katanga. D'après cette source, il est aussi prévu la rencontre avec d'autres personnalités dont on ignore encore les identités. La venue de la délégation à Lubumbashi coïncide avec la rencontre tenue hier au gouvernorat de province entre l'autorité provinciale, le corps diplomatique, les agences du système des Nations Unies et le représentant de la MONUSCO Lubumbashi. À cette occasion, Moïse Katumbi a tenu à expliquer à ses invités les différentes péripéties des événements du 23 mars et les raisons de la psychose qui a régné dans la capitale du cuivre le lundi dernier. À la fin, il a rassuré les uns et les autres du calme qui règne à Lubumbashi. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Clément Mangoubou, vous êtes éditeur du journal Mwangaza, un hebdomadaire qui paraît à Kisangani, en province orientale. Comment analysez-vous l'arrivée surprise des miliciens Bakata Katanga à Lubumbashi le samedi dernier?
Oui, là, il faut dire que la situation est un peu similaire à ce qui s'était passé ici à Kisangani le 20 novembre 2012, où on a vu des individus déferler dans la ville à partir de 8h-9h, investir la ville et faire des casses dans la ville. Les forces de l'ordre ont été avec des surprises, comme un peu au Katanga aussi. Mais moi, je pense qu'il y a un problème de fond. Le problème de fond, c'est que les services de sécurité ont relâché un peu leur attention, parce que ils doivent être en alerte à tout moment et suivre les mouvements de ce qui se fait. On sait que le Katanga, c'est une zone où les Maïmaï sont très actifs, et ce n'est pas seulement dans la périphérie de Lubumbashi, mais il faut aussi tenir compte de la ville, parce que les infiltrations peuvent se faire à tout moment. Mais c'est quand même impensable. Quand on se réveille le matin, il y a plus de 350 hommes qui entrent dans la ville, qui investissent la ville, qui font monter un drapeau et ils vont à la MONUSCO. C'est après que les forces se réveillent. Cela s'est passé également à Kisangani. Et moi, je me dis, l'enquête, nous sommes un pays des enquêtes. Le gouvernement, il fait plus des enquêtes. Ce qui s'est passé à Kisangani, il y a eu des enquêtes, on n'a jamais connu les résultats. Et ce qui vient de se passer à Lubumbashi, il y a certainement des enquêteurs sur le terrain, il n'y aura pas d'issue.
Merci Jean-Marie Cambois. Je rappelle que vous êtes directeur des publications du journal L'Avenir. C'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. L'entrée des miliciens Bakata Katanga à Lubumbashi a suscité beaucoup de questions, notamment comment ces gens sont-ils entrés sans être inquiétés? Où étaient les services de renseignement, la police, l'armée. Peut-on parler de la passivité des services de sécurité?
Confrère, moi, je vous appuie pour dire qu'il y avait une certaine passivité dans les chefs de nos services de sécurité. Car la première information que moi j'avais reçue ce jour-là, c'était pour dire que non, la ville de Lubumbashi était tombée. Quand je vais alors m'informer, c'est alors que j'apprendrai qu'il y a des maïmaïs qui sont entrés. La première question qui m'est arrivée en tête, c'est de savoir comment des maïmaïs, plus de 200 personnes, peut-il aussi facilement entrer dans la ville de Lubumbashi et jusqu'à aller poser leur drapeau avant d'être reçu à la MONUSCO? C'est la première question. Malheureusement que je n'ai pas trouvé de réponse, mais au réel de ce que tu viens de dire, je viens de me rendre compte qu'il y avait une certaine passivité. Il y a aussi quelqu'un qui m'a dit, parce que il fallait toujours appeler à l'Oumaché pour avoir des informations. Un ami m'a dit que non, la population que nous avons rencontrée disait que nos forces armées ou nos services de sécurité ne parvenaient pas à identifier les maïmaïs que la population, elle, identifiait facilement. Et ça m'a tiqué, et puis je me suis dit, mais si déjà au niveau de Lubumbashi, nous ne sommes pas capables d'assurer notre sécurité à 100%, qu'adviendra-t-il d'autres provinces? Cher ami, lorsque je pousse très loin ma réflexion, j'arrive directement à des enquêtes qui ont été diligentées. Et puis, toujours en questionnant les sources proches de la province de Katanga, je me rends compte qu'il y avait un problème dans le chef des Maïmaï. Il y avait un problème là où les Maïmaï proviennent. Les Maïmaï viennent du nord. Le nord, qui est une province du Katanga, qui n'est pas très lotie en matière d'infrastructure, en matière de la desserte en eau, en électricité. Donc, c'est une partie de la province qui n'est pas très desservie.
Et là, on parle du Katanga utile et du Katanga non utile.
Confrère, j'ajoute d'abord pour dire que le problème, selon moi, je me rends compte que les deux commissions d'enquête qu'on a constituées au Parlement et au gouvernement ne valaient pas la peine d'être constituées, dans la mesure où les problèmes au Katanga, on les connaît. Si c'est un problème de pauvreté, alors allez directement résoudre ces problèmes en lieu et place de... Parce que tous les leaders katangais qui sont à Lubumbashi, qu'est-ce qu'ils ignorent de ce qui se passe chez eux? Qu'est-ce qu'ils ignorent de ce qui se passe au Nord Katanga? Ils savent la réalité, et la réalité est qu'ils doivent aider les chefs de l'État à pouvoir résoudre cette question-là.
Yvonne Kadedanga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Il y a des gens qui pensent qu'il ne faut même pas parler de la passivité, mais plutôt d'une certaine complicité de la part des services de sécurité.
Complicité et complaisance. Il faut prendre ces deux mots-là. Et s'il faut que les deux commissions qui sont descendues, les deux commissions d'enquête qui sont descendues, puissent faire un travail dans toute objectivité, la première chose, il faudrait que l'autorité provinciale soit suspendue ou en effet inviter l'assemblée provinciale à interroger ou même à démettre le gouverneur de province.
Alors qu'il n'a pas été entendu?
Non. Il ne faudrait pas qu'il y ait sacralisation, consécration du régime de l'impunité dans notre pays. Ce n'est pas pour la première fois que les Bakatakatanga attaquent la ville de Lubumbashi. Vous vous souviendrez, le 20 novembre dernier,
il y a eu plusieurs incursions. Les cibles, c'était des endroits stratégiques,
les aéroports, les camps militaires, des dépôts de munitions. S'il n'y a pas eu complicité, alors c'est la complaisance de l'autorité provinciale. Et pourquoi je parle de la complaisance? Et c'est cette autorité provinciale qui entre la toute première en contact avec ces gens. Ces gens viennent contre le pouvoir central. Ils viennent contre le chef de l'État. C'est là où je dis le chef de l'État a été trahi. Ils viennent contre lui et c'est le représentant du chef de l'État qui entre en contact avec eux. Pourquoi n'a-t-il pas eu peur d'être fusé par ces gens ici? Parce que partout où ils sont passés, ils ont tué tous ceux qui représentaient l'État congolais, les policiers, les militaires, ainsi de suite.
Mais le gouverneur a été en contact avec le Bakatakatanga lorsque ces derniers avaient déjà été désarmés par la MONUSCO.
Non, c'est difficile à concilier ça, Guy Maté. Stratégiquement parlant, politiquement parlant, ça ne peut pas s'expliquer. Parce que c'est l'image du pouvoir central contre lequel ces gens sont allés. Ça, c'est la première analyse. La deuxième analyse, le confrère a dit qu'on regarde la chose au fond. De quoi réclament ces Bakatakatanga? La première chose, ce qu'ils réclament, nous avons mené nos enquêtes, nous avons interrogé le notable katangais, notamment les députés de l'opposition Fabien Mutombe Kankato qui a vécu l'affaire sur place, et les députés Prosper Kabila Wankulu. Notre enquête du journal est allée plus loin pour interroger toutes ces personnalités. Ils réclament quoi? La première chose, tous les Maïmaï du Nord Katanga se plaignent de l'ingratitude du gouvernement central pour avoir fait front à l'agression ougando-rwandais burundaise en 1998 avec la force d'autodéfense populaire. Ces gens n'ont pas été remerciés ou n'ont pas été encadrés. Donc l'appel du gouvernement central par Moïse Laurent-Désiré Kabila de la prise en charge autopopulaire n'a pas été encadré. Ces gens avaient reçu les armes, ces gens avaient tout reçu. Et par la suite, il n'y a pas eu de mesures d'encadrement de cela pendant ce moment.
Et d'où vient la revendication selon laquelle il faut proclamer l'indépendance du Katanga?
J'y arrive, Guimaté. Alors, pendant ce temps, tous les maïmaïs des autres provinces ont été élevés, qui des généraux, qui des colonels, qui des majors, qui de ceci, qui des gouverneurs de province, qui de ceci, qui de cela, pendant que eux ont été abandonnés à leur triste sort. Et ces gens, se sentant dans l'insécurité, ils sont en train maintenant de manifester leur mécontentement. Il faudrait prendre cette affaire au sérieux avant que ça ne puisse déplorer. Le confrère a relevé le deuxième aspect de la chose, c'est lorsqu'il parle de Katanga utile, Katanga inutile. C'est contre le découpage du Katanga que ces gens sont en train de partir. Parce que ceux du Nord sentent dans les découpages, comme ici il s'agit d'une politique de chasser tous les baloubas du Katanga.
Mais le découpage est constitutionnel, consacré par la Constitution.
C'est constitutionnel, Guimaté, mais il faudrait voir l'idée que cachent ceux qui parlent de ça à Lubumbashi, notamment, où on dit que le découpage signifierait que l'on chasse les baloubas, qu'ils rentrent chez eux. Et cela est très cher confrère, où certains notables katangais réfléchissent à faire des grandes villes du Katanga, Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, des villes provinces, pour éviter à toutes ces frustrations, et même les non-autochtones, les non-katangais, pour qu'ils se sentent en sécurité. Que les baloubakats qui se disent majoritaires et leurs ancêtres se sont battus pour construire les grandes villes qu'ils se voient chasser. Voilà la frustration de ces gens. Mais alors, là, pour que les enquêtes soient indépendantes, objectives et puissent apporter le bonheur, il faudrait. Et puis, dans la constitution des délégations, il n'y a qu'une seule famille politique qui est partie.
Merci.
John Kolela, député de l'opposition, Fabien Moutombe, député de l'opposition, et Coco Moulongo, député de l'opposition, sont écartés. Comment une seule famille peut s'auto-évaluer? Donc,
merci.
C'est pour vous dire qu'il y a déjà anguille sous roche, il faudrait, pour la solution à ça, que l'autorité provinciale, que l'Assemblée puisse démontrer son objectivité, son indépendance pour mettre l'autorité.
Merci, Joël
qui a été trouvée complaisante.
On a compris.
À côté. Voilà.
Et Clément Mangoubou, ces gens, les Wakata Katanga, s'opposent au découpage qui est pourtant constitutionnel. Et s'ils estiment que le découpage ne les arrangerait pas, pourquoi ne peuvent-ils pas couler leurs revendications dans un document et passer par leurs représentants? Ils ont des représentants à l'Assemblée nationale, au Sénat, et afin que, éventuellement, l'on puisse, n'est-ce pas, réviser la Constitution en tenant compte des revendications de cette population.
Oui, vous comprenez qu'au Congo, la population, les gens croient que pour être entendu, il faut s'inviter. Il faut prendre les armes, il faut des actions comme ça pour que la voix soit entendue. Je crois que c'est un peu ça. Parce que aujourd'hui, les gens sont habitués à secouer, même avec des armes, les gouvernements pour pouvoir être entendus. Et ils ont observé, les gens observent que lorsque on a pris les armes, lorsque on s'est rebellé comme ça, il y a vite une solution. On vous appelle, on vous entend et il y a une solution. Mais moi je me dis, les Wakata Katanga n'ont pas raison de s'opposer à une disposition constitutionnelle, une constitution qui a été adoptée à tous les Congolais et qui aurait dû, la disposition aurait dû être appliquée depuis 2006. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas compris la lenteur du gouvernement. Il a été dit que certaines entités n'étaient pas pourvues en infrastructures, n'étaient pas pourvues en ressources et qu'il fallait attendre. Mais, confrère, les Belges, quand ils sont arrivés ici, c'était une forêt. Ils ont fait sortir des villes dans cette grande forêt-là. Les Congolais doivent travailler pour construire de nouvelles entités. Il ne faut pas que cela pousse comme des champignons. Il faut accepter, il faut se mettre au travail, il faut travailler et créer des infrastructures. On ne doit pas trouver des infrastructures toutes faites et commencer déjà à travailler. Ils ont peut-être des raisons cachées, mais moi je pense qu'ils devraient accepter cette disposition constitutionnelle et le gouvernement doit prendre des dispositions pour appliquer effectivement cette disposition constitutionnelle.
Merci, c'est la fin de cette émission. Sylvain Matundu était à la technique et Samuel Kachak à la réalisation sous la supervision de Julien Nyamouini. Devant ce micro, Guy Maté, merci et on se retrouve la semaine prochaine.